de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. Président Joko Widodo arrive à Jakarta après avoir visité trois pays de l'ASEAN. Ministère de l'Environnement et des Forêts poursuivra les plantations simultanées jusqu'en avril 2024. Ministre de l'Industrie est optimiste quant au fait que la performance manufacturière atteindra 5,8% en 2024. Jeunes entrepreneurs de Bali apprécient le tourisme et ont besoin d'un allègement fiscal. Ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Indonésie respectait systématiquement la politique d'une seule Chine. Brunei investit 450 millions de dollars américains dans IKN. Et Commission électorale générale, KPU, ouvre ses services de transfert de vote jusqu'à lundi soir. Pour changer de terre, voici les nouvelles en complet. Le président Joko Widodo est arrivé à Jakarta dimanche 14 janvier après avoir visité trois pays de l'ASEAN, les Philippines, Brunei Darussalam et le Vietnam. Le président Joko Widodo commence sa visite aux Philippines. Là, le président a rencontré le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Il a également reçu des visites de courtoisie du ministre des Transports et du ministre de la Défense des Philippines. Depuis les Philippines, le président Joko Widodo a poursuivi sa visite au Vietnam pour rencontrer les dirigeants vietnamiens. Il a également apprécié l'accueil chaleureux du Vietnam lors de sa série de visites de travail là-bas. Le président Joko Widodo a terminé sa série de visites dans trois pays de l'ASEAN en se rendant au Brunei Darussalam. À Bandar Seri Begawan, le président Joko Widodo a rencontré un certain nombre d'hommes d'affaires du Brunei Darussalam et a répondu à l'invitation au mariage du fils du sultan Hassan Bolkiah, le prince Abdul Matin. Le ministère de l'Environnement et des Forêts de la République d'Indonésie, par l'intermédiaire de la Direction de la gestion des bassins versants et de la réhabilitation des forêts, est prêt à continuer de planter des arbres simultanément dans toute l'Indonésie jusqu'en avril 2024. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, en accompagnant le vice-président. Ma'ruf Amin dirigera les semis simultanés dans la province de Banten dimanche 14 janvier. Selon la ministre, cette activité est une série d'agendas de plantations simultanées qui ont été mises en œuvre le 30 décembre 2023 et se poursuivront avec les plantations de février à avril 2024. Les sites de plantation sont constitués de zones ouvertes telles que des espaces verts, des terrains qui doivent être restaurés. Les zones environnementales, les cours d'école, les zones d'équipement public et autres. Cette activité s'étend également et continue les plantations sur les sites de plantation précédents grâce à la participation active de la communauté et des parties liées dans toute la région. Le ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie, Agus Gumiwang Kartasasmita, est optimiste quant au fait que la performance de l'industrie manufacturière puisse atteindre l'objectif de 5,8% en 2024. Cet optimisme a été exprimé par le ministre de l'Industrie suite au rôle de l'industrie manufacturière en tant qu'épine dorsale des croissances économiques nationales jusqu'à présent. Dans sa déclaration citée par Antara dimanche 14 janvier, Agus Gumiwang a déclaré que le rôle important de l'industrie manufacturière nationale se reflète dans sa contribution relativement importante au PIB national, à savoir 16,83% au troisième trimestre 2023, afin de atteindre l'objectif de 5,8%, le ministère de l'Industrie se concentre sur la mise en œuvre de divers programmes prioritaires, par exemple des programmes d'enseignement et de formation professionnelle basés sur les compétences, des programmes de restructuration de machines et ou d'équipements pour les petites et moyennes acteurs industriels IKM, ainsi que de nouveaux programmes de croissance entrepreneuriale et de développement IKM, de start-up basées sur la technologie. L'Association des jeunes entrepreneurs indonésiens de Bali, HIPMI, estime que les entreprises touristiques ont encore besoin d'allègements fiscaux car l'industrie ne s'est pas complètement rétablie après avoir été touchée par la pandémie de COVID-19. Le trésorier général de HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggi, à Denpasar, a expliqué dimanche à Antara qu'il était nécessaire d'assouplir les taxes sur le secteur du tourisme compte tenu de l'augmentation des taux d'imposition des services de divertissement atteignant 40% à Bali. Le jeune entrepreneur de Buleleng Bali a ajouté qu'un assouplissement fiscal est également nécessaire car le tourisme sur l'île de Dieu ou Bali est également en concurrence avec les pays de la région de l'Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande, qui a également conquis le cœur des touristes après que le secteur touristique ait commencé à s'améliorer. Pendant ce temps, la Thaïlande réduit actuellement la taxe touristique jusqu'à 5%. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré à Antara dimanche 14 janvier que l'Indonésie surveillait de près l'évolution de la situation à Taïwan et respectait toujours la politique d'une seule Chine. Cette réponse est intervenue lorsque Taïwan a annoncé les résultats de l'élection à la direction de Taïwan qui a remporté des candidats issus des partis rejetant la réunification avec la République populaire de Chine. Plus tôt, William Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste au pouvoir, avait déclaré sa victoire aux élections à la direction de la région. Il a déclaré que Taïwan soutiendrait la démocratie plutôt que l'autoritarisme. Il a également déclaré qu'en tant que président élu, il était responsable du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Le consortium Brunei Darussalam s'est engagé à investir dans la capitale d'État Nusantara IKN d'une valeur de 300 à 450 millions de dollars américains, soit environ 7 000 milliards de roupies. C'est ce qu'a déclaré le prince Anakputri Hadja Amalarakia, frère cadet du sultan Hassan Abokia, alors qu'il dirigeait une délégation d'investisseurs pour rencontrer le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, à Bandar Seri Begawan. C'est le communiqué officiel de l'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan, reçu par Antara dimanche 14 janvier. L'ambassadeur d'Indonésie au Brunei, le professeur Ahmad Ubaidillah, a révélé que l'engagement écrit avait été remis directement par Putri Amalarakia au chef de l'autorité d'IKN Nusantara, Bambang Susantono, en présence du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo. La société Riada Holding Investment Group, en tant que consortium d'investissement, a signé une lettre d'intention pour investir dans IKN Nusantara. La Commission électorale générale de la République d'Indonésie, KPU, a ouvert un service de transfert des zones de vote jusqu'au soir pour les élections de 2024 afin d'accueillir les résidents qui ont le droit de voter mais qui se trouvent dans un endroit différent de la liste électorale permanente initiale. Le commissaire de KPU de l'Indonésie, August Melas, cité par Antara dimanche 14 janvier, a déclaré que selon le calendrier fixé par la KPU de l'Indonésie, le délai pour le déplacement des électeurs se terminera lundi 15 janvier soir, mais n'exclut pas la possibilité d'être prolongé jusqu'au 7 février 2024. Selon August, la socialisation concernant le droit de vote et l'espace permettant aux électeurs de se déplacer pour voter a été réalisée depuis longtemps, à la fois par le KPU central et par le KPU régionaux. Le KPU a également fixé une période de campagne du 28 novembre 2023 au 10 février 2024 et un vote le 14 février 2024. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Cédric, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « La victoire de Lai Ching-te et l'avenir de Taïwan ». Le candidat à la présidence de Taïwan, Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste, DPP, a réussi à remporter les élections générales de Taïwan samedi 13 janvier 2024. Lai a réussi à vaincre son plus proche rival, Wu Yui, du Parti Kuomintang, KMT, par plus de 900 000 voix. Lai prendra le pouvoir le 20 mai aux côtés de son vice-président élu, Xiao Baikim. Dans son discours de victoire, Lai, 64 ans, a félicité les électeurs pour avoir refusé de se laisser influencer par les forces extérieures qui tentaient d'influencer les élections. Lai a déclaré qu'il souhaitait travailler avec la Chine en tant que plus grand partenaire commercial de Taïwan et maintenir la paix et la stabilité. Mais il a promis de ne pas avoir peur de l'attitude agressive de la Chine et a déclaré qu'il protégerait Taïwan des menaces et des intimidations chinoises. Après l'annonce des résultats des élections, Taïwan a reçu les félicitations des États-Unis et de l'Angleterre pour la victoire de Lai. Pendant ce temps, Pékin, qui a toujours considéré que Taïwan faisait partie de la Chine, a déclaré que le vote n'entraverait pas l'inévitable tendance à l'unification. Le porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan à Pékin, Chen Binhua, a déclaré que les résultats du vote ne modifieraient pas les paysages fondamentaux ni les tendances de développement des relations entre les deux rives qui séparent la Chine continentale de Taïwan. Il a également souligné la cohérence de Pékin dans la réalisation de la réunification nationale. Pendant ce temps, le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère indonésien des Affaires étrangères, a déclaré qu'il continuerait à surveiller l'évolution de la situation à Taïwan. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré dimanche dans un communiqué de presse à Jakarta que l'Indonésie surveillait de près le développement à Taïwan. Jusqu'à présent, l'Indonésie a toujours respecté la politique d'une seule Chine telle que déterminée par l'ONU. Mais d'un autre côté, on ne peut nier que Taïwan est l'un des partenaires commerciaux les plus importants de l'Indonésie. On espère que le désir de Lai Ching-te de coopérer avec la Chine en tant que principal partenaire commercial de Taïwan permettra de réduire les tensions et de maintenir la stabilité entre les deux. Toutefois, le rôle important de Taïwan dans l'économie mondiale ne peut être ignoré. Le détroit de Taïwan est l'une des routes commerciales maritimes les plus importantes au monde. Taïwan est également connu comme un important producteur de technologies, notamment de semi-conducteurs utilisés dans une variété de produits avancés, allant des smartphones au système de missiles. C'est le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous maintenant. C'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui par le 15 janvier 1974, l'incident du malaria à Jakarta. Chers amis, l'incident du malaria était une manifestation étudiante qui a conduit à des émeutes majeures le 15 janvier 1974. Cet événement a commencé avec l'arrivée prévue du premier ministre japonais Tanaka Kakue en Indonésie et aussi avec le chaos autour des investissements étrangers à cette époque. Les étudiants ont accueilli l'arrivée de Kakue le 14 janvier 1974 en organisant une manifestation à l'aéroport Halim Perdana Kusuma. Cependant, les manifestants n'ont pas pu entrer car ils étaient fortement gardés par les forces de sécurité. Le lendemain, 15 janvier 1974, les étudiants descendent à nouveau dans la rue pour réclamer l'inégalité dans les investissements étrangers qui profitent à certains groupes, l'éradication de la corruption et les prix élevés des produits de première nécessité. Outre ces trois revendications, les étudiants exigent également la dissolution de le conseiller personnel adjoint du président Suharto. Vers l'après-midi, la manifestation a commencé à s'échauffer et s'est terminée dans le chaos. Après le meute, le président Suharto a pris des mesures pour destituer le commandant du commandement des opérations pour le rétablissement de la sécurité et de l'ordre, le général Sumitro, parce qu'il était jugé responsable des émeutes et des morts. Le nombre enregistré des victimes de l'incident de Malari était de 11 personnes tuées, 137 personnes blessées et 750 personnes arrêtées. Chers auditeurs, passons maintenant l'histoire d'aujourd'hui par l'événement de 15 janvier 2004. Transjakarta a officiellement fonctionné pour la première fois. Transjakarta est un système de transport moderne sous la forme de bus rapide ou BRT. On l'appelle ainsi parce que les bus ont leur propre voie sur l'autoroute qui sont séparées par des séparateurs à un certain nombre de points. Ceci, le système de transport public est la réponse à l'anxiété des citoyens de Jakarta qui aspiraient à des transports publics plus appropriés. Le gouverneur de Jakarta de l'époque, Sutioso a ensuite adopté ce système de transport public depuis la capitale colombienne, Bogota. Transjakarta a été le premier système de transport par bus rapid, BRT, en Asie du Sud-Est et du Sud. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui par le 15 janvier 2007. Deux partisans de Saddam Hussein exécutés. Le 15 janvier 2007, le procureur Munkit Al-Faroun a rapporté deux partisans de Saddam Hussein, Barzan Al-Tikriti et Awad Hamid Al-Bandar, ont été exécutés par pendaison pour être responsables du massacre de Dujail. Après la tentative d'assassinat de Saddam en Dujail en 1982, près de 150 hommes et adolescents du village ont été condamnés à mort. Barzan Ibrahim al-Tikriti était le demi-frère de Saddam Hussein et était à l'époque chef de service secret irakien. Pendant ce temps, Awad Hamid al-Bandar était à l'époque juge en chef du tribunal révolutionnaire qui a condamné à mort le villageois de Dujail. Barzan al-Tikriti et Awad Hamid al-Bandar purgent leur peine de mort dans le bâtiment du centre des services secrets militaires irakiens au nord de Bagdad, où Saddam Hussein a également été pendu. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Di antara kita baru ku rasakan ada. berbeda di antara kita, mungkin ada cinta. Katakan ini benar nyata. Tiada ada ragu bila memang benar kita. Membawa kita ke sana. Oh, ada yang tak biasa di antara kita. Baru ku rasakan adanya padamu. Kini aku mengerti, samakah kau rasa ada yang berbeda di antara kita? Mungkin
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, voici mon Indonésie dont le titre est L'Indonésie réduit avec succès la déforestation et les incendies de forêts et de terres. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a déclaré que l'Indonésie continue de faire preuve d'engagement dans les efforts visant à contrôler le changement climatique mondial tout en préservant les intérêts de la nation indonésienne. Le ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, dans une déclaration à Jakarta dimanche 14 janvier, a déclaré que ce succès était soutenu par des données et des informations précises, transparentes et crédibles. Citant un rapport d'Antara, Siti Nurbaya a révélé que les résultats du calcul de l'inventaire national de gaz à effet de serre étaient de 1220 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone en 2022. Cependant, le niveau d'émission de 2022, comparé à Business as usual, BAU ou en français, aux affaires comme d'habitude, BAU, de la même année, montre une réduction de 42%. Le secrétaire de la foresterie et autres utilisations des terres, FOLU, a également enregistré des succès. Les données sur la déforestation de la période 1996-2000 à la période de suivi 2020-2021 montre que la déforestation est tombée à son point le plus bas de 20 dernières années, soit à 0,11 million d'hectares. Ensuite, les données pour 2022 montrent que le taux de déforestation a encore diminué pour atteindre 104 000 hectares et qu'en 2023, il diminuera également encore davantage. La ministre cite expliquait que les incendies de forêt et de terre en 2023 avaient été maîtrisés dans une moindre mesure par rapport à 2019, avec presque la même influence d'El Nino, même les conditions en 2023 étaient plus sèches. Il a en outre révélé que cette situation avait été anticipée grâce à divers efforts visant à prévenir les incendies de forêt et de terre à partir du début de 2023. Le ministère de l'Environnement et des Forêts mène systématiquement divers efforts pour prévenir les incendies de forêt et de terre, en commençant par la surveillance des points chauds, en établissant des politiques, en prenant des mesures sur le terrain, y compris la prévention, l'extension et l'application de la loi. L'Indonésie a réussi à atténuer l'impact d'El Nino, de sorte que le nombre de points chauds et la superficie des incendies de forêt et de terre n'étaient pas aussi élevés que les années précédentes. La ministre Siti a déclaré que la performance de l'Indonésie en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED Plus a reçu une reconnaissance internationale qui se concrétisait par le biais de paiements basés sur la performance ou de paiements basés sur les résultats RBP. Le succès de l'Indonésie dans la mise en œuvre de RED Plus et l'obtention de paiements basés sur les résultats a été reconnu par CCNUCC et constitue un bon exemple de mise en œuvre du programme RED Plus. La participation et la diplomatie de l'Indonésie par le biais d'actions concrètes montrant l'exemple ont donné de la couleur et l'influence les résultats de diverses négociations sur les questions liées au changement climatique. En outre, les mesures concrètes prises par l'Indonésie montrent qu'elle a lancé plusieurs mesures pour contrôler le changement climatique avant que ces mesures ne se transforment en engagement ou en décision au niveau mondial. C'est Juritard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
smash them haters, make them up and down. My answers what you got to show where you at. Gonna bump your fist, never let it miss. Bang me the fist, ha ha. No friends, I was just dissing his. Make them see you're an ordinary kiss. You are so special.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, la cascade de Sigerincing se trouve dans le village de Tuo, dans la résidence de Merangin, dans la province de Jambi. Depuis le centre-ville de Jambi, cette attraction touristique est accessible en 7 heures environ, tandis que depuis la ville de Bangko, cela prend environ 3 heures. Cette cascade a une hauteur de 40 à 60 mètres et offre une belle atmosphère naturelle. Si vous avez de la chance, vous pourrez également observer le phénomène arc-en-ciel sur cette cascade. Pour entrer dans l'attraction touristique de la cascade de Sigerincing, il vous sera facturé de 5 000 à 10 000 rupiah par personne. Depuis le parking, vous devez marcher pendant environ 15 minutes à travers le chemin de gravier en descendant les escaliers pour atteindre l'emplacement. Tout au long du voyage, vous verrez des bouts de plantes appartenant aux résidents locaux comme le café, la cannelle, le caoutchouc, etc. Lorsque vous arrivez à l'emplacement de la cascade, toute votre fatigue disparaît lorsque vous voyez la beauté de cette cascade. La cascade de Sigerincing a une rivière qui coule en dessous avec l'eau claire et une profondeur d'environ un demi-mètre qui peut être utilisée pour nager ou jouer dans l'eau. Ces rivières tirent sa source de la rivière Siau, qui prend sa source au mont Masurai. La cascade de Sigerincing a de l'eau très claire. Vous pouvez donc clairement voir différents types de poissons nager librement. Parce que la nature est si belle, dans cette attraction touristique, vous pouvez également prendre des selfies. Malheureusement, il n'y a pas de restaurant disponible sur ce lieu touristique. Donc, lorsque vous voyez ici, vous devez apporter votre propre nourriture et vos boissons. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre La cascade de Sigerincing à Jambi. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Berani untuk mencoba jatuh dan bangun.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est di Tanjung Puting. Je répète, di Tanjung Puting signifie à Tanjung Puting. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Seekor Orang Utan. Seekor Orang Utan signifie un orang-outan. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et Naomi, guide touristique au Cap Puting, Kalimantan Central. Chris a enregistré le moment où il a parlé à Naomi de l'apparition de l'orang-outan. Écoutons le dialogue.
Lihat itu, seekor orang-outan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, seekor orang-outan. Seekor orang-outan signifie un orang-outan. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Seekor. Seekor signifie un orang-outan. Orang-outan signifie orang-outan. Muncul. Muncul signifie apparaît. Dari. Dari signifie de. Balik. Balik signifie derrière. Pohon. Pohon signifie arbre. Seekor orang-utan muncul dari balik pohon. Seekor orang-utan muncul dari balik pohon. Signifie un orang-utan apparaît derrière un arbre. Lihat. Lihat signifie regarder. Dua ekor. Dua ekor signifie de que. Sebelah sana. Sebelah sana signifie là-bas. Dans le dialogue, vous entendez la phrase seekor orang-utan muncul dari balik pohon. Seekor orang-utan muncul dari balik pohon signifie un orang-utan apparaît derrière un arbre. Dans cette phrase, il y a le mot seekor. Seekor signifie un, c'est-à-dire une queue. Seekor. Seekor signifie un et utilisé pour indiquer le numéro de quelque chose sous la forme d'un animal. Dans cette phrase, le mot seekor. Seekor signifie un et utilisé pour indiquer le numéro d'un orang-outan. Allez, écoutez un autre exemple d'utilisation du mot seekor signifie un dans une autre phrase. Seekor singa lepas dari kandangnya. Seekor singa lepas dari kandangnya signifie un lion s'échappe de sa cage. Kami menonton atraksi seekor monyet di sebuah sirkus. Kami menonton atraksi seekor monyet di sebuah sirkus signifie nous avons regardé un singe jouer dans un cirque. Le parc national de Tanjung Puting est un lieu de réhabilitation pour les orang-outans situés dans la région de Kota Waringin de l'Ouest et la région de Seruyan dans la province de Kalimantan Central. Dans le parc national, les visiteurs peuvent regarder les activités de nourrir des orang-outans. Tanjung Puting dispose de trois sites pour nourrir les orang-outans, à savoir le camp Tanjung Harapan, le camp Pondok Tangguy et le camp Laiki. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Lihat itu. Seekor orang-utan muncul dari balik pohon.
Oh iya, itu ada dua ekor lagi di sebelah sana.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Hatimu mengapa? diriku. Tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini. Semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku. Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku sesali kau tak lagi ada.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical avec Maudry. Et cette fois, nous vous présentons une chanson Keroncong intitulée Tukar Jiwa, chantée par Keroncong Tujuh Putri. Chers auditeurs, cette chanson sortie en octobre 2017 a été créée et popularisée par le chanteur Toulouse. La chanson Tukar Jiwa raconte l'histoire de quelqu'un qui aime vraiment son amant, jusqu'à ce qu'il espère que lui et sa bien-aimée pourront échanger leurs âmes pour qu'ils puissent comprendre. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Keroncong intitulée Tukar Jiwa, chantée par Keroncong Tujuh Putri. Bonne écoute!
Cara untuk jelaskan padamu, mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja, satu hari saja kau jadi diriku, kau akan mengerti. Coba sehari saja, satu hari saja kau jadi diriku. Kau akan mengerti, kau akan mengerti bagaimana aku melihatmu. Coba sehari saja, satu hari saja.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.